Hervé, bonjour.
Bonjour.
En première page du Parisien aujourd'hui en France, ce titre choc, terreur en Iran.
Titre illustré par une photo floue qu'on devine prise dans un mouvement de foule et peut-être de panique. On y voit des policiers vêtus et casqués de noir foncer sur des manifestants, matraques brandies. L'attaque iranienne contre Israël, le 13 avril, en a dissimulé une autre, celle du régime contre son propre peuple, écrit le Parisien. La police des mœurs fait la chasse aux femmes qui ne portent pas ou mal le voile. Le régime terrorise celles et ceux qui dérogent à la loi islamique. Et le rappeur Toumage, 33 ans, figure de la contestation iranienne, vient d'être condamné à mort pour corruption sur terre. Libération raconte qu'il a été torturé, interdit de chanter, condamné, libéré l'an dernier, puis arrêté 12 jours après. Selon Amnesty International, il y a 853 exécutions l'an dernier en Iran.
À Sciences Po, les manifestants pro-palestiniens, eux, ont fait reculer la direction.
Et c'est d'une autre terreur, peut-être une terreur intellectuelle qu'il est question. Sciences Po s'incline face à la pression islamo-gauchiste, titre Le Figaro, après qu'un accord a été conclu avec les agitateurs qui bloquaient l'établissement. C'est à ce mouvement que la direction de Sciences Po a donné satisfaction en concédant un débat qui aura lieu jeudi sur le modèle des universités américaines et l'abandon des sanctions contre les bloqueurs. Le Figaro cite plusieurs étudiants à la fois écœurés et effrayés. On doit se taire face à une minorité bruyante. L'opinion explique que les tensions actuelles sont le résultat d'une volonté d'internationaliser l'école qui a tourné le dos à l'esprit du service public et d'une stratégie d'entrisme de la France insoumise. Le journal souligne que les affiches pro-palestiniennes ont envahi l'école dès le lendemain de l'attaque du Hamas le 7 octobre, c'est-à-dire avant l'offensive israélienne sur Gaza.
La Croix, justement, interroge la journaliste israélienne Lee Yaron, qui vient de publier un livre sur les massacres du 7 octobre à propos du mouvement qui agite les universités américaines.
Et je vous lis sa réponse. « C'est déchirant, car je soutiens leurs appels pour un État pro-palestinien et la fin de l'occupation. Mais j'ai l'impression que certains manifestants ne comprennent pas ce que ça signifie d'appeler à l'intifada globale ou de crier « Nous sommes tous le Hamas ». Est-ce vraiment ce que l'on veut? La mort, le meurtre, les attaques terroristes? Ce sont des appels à soutenir la terreur alors qu'il faut distinguer les Palestiniens du Hamas. De même, Lee Yaron estime dans cette même interview que le gouvernement Netanyahou ne représente pas la majorité des Israéliens et que le Premier ministre israélien préfère son intérêt à celui de la population. Dans le Figaro, Alain Finkielkraut, qui rentre d'un voyage en Israël, tient un propos voisin. Le Hamas n'est pas un problème, c'est un ennemi qui veut l'extermination des Juifs. Netanyahou est le problème parce qu'il bloque toutes les issues, sabote consciencieusement toutes les solutions. Il ne gouverne plus pour ce qu'il croit être le bien d'Israël, mais pour la survie de sa propre majorité.
Comme les étudiants de Sciences Po, les contrôleurs aériens ont eux aussi obtenu ce qu'ils réclamaient. Les échos révèlent le contenu de l'accord conclu la semaine dernière pour éviter la grève.
Comme à la SNCF, le chantage sur les Jeux Olympiques, une autre forme de terreur, a payé. Le principal syndicat d'aiguilleurs du ciel a fait céder le ministère des Transports et la direction de l'aviation civile pour que la réorganisation en cours soit largement compensée. Les échos parlent d'augmentation de salaire de 226 à 1001 euros net par mois, j'ai bien dit net, plus des revalorisations de primes et des réductions de cotisations au fonds de pension maison. Les contrôleurs ont aussi obtenu des jours de repos supplémentaires et l'accès aux plus hauts indices de la fonction publique, ce qui entraîne l'augmentation des pensions de retraite qu'ils peuvent, je le rappelle, prendre dès 59 ans. Des avantages à faire pâlir d'envie la plupart des agents de la fonction publique, écrivent les échos, d'où sans doute la consigne de discrétion qui avait été imposée par le gouvernement sur cet accord. Eh bien, c'est raté.
Peut-être que ces jours de repos supplémentaires permettront aux contrôleurs aériens de faire du sport. Ouest-France livre le classement des régions selon le niveau de pratique sportive.
Et c'est la Bretagne qui est en tête du classement, d'où peut-être l'intérêt particulier de Ouest-France, tout chauvinisme mis à part, bien entendu. Le classement est très sérieux, il est établi par l'INSEE selon le nombre de licences distribuées par les fédérations sportives et les réponses données à des questionnaires spécifiques. Derrière la Bretagne, on trouve la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire, ce qui veut donc dire que les sportifs sont à l'Ouest, si je j'ose dire. Le sport le plus pratiqué est bien entendu le football, y compris en Bretagne, même si on y fait aussi beaucoup de voile. 71% des Bretons disent pratiquer un sport, contre 65% de l'ensemble des Français, et 2/3 des licenciés sportifs sont des hommes, donc 1/3 seulement sont des femmes.
On termine avec le dictionnaire. Le Figaro consacre une grande double page aux nouveaux entrants dans le Petit Larousse, édition 2025.
Le Petit Larousse va fêter ses 120 ans et il s'efforce de rester à la page. Il en comporte d'ailleurs 2044. Il reflète l'évolution de la langue française et à travers elle, l'évolution de notre société, souligne la directrice des dictionnaires de Larousse. Le cru 2025 est marqué par les inquiétudes du moment, avec par exemple le cyberterrorisme, ou le mot méga-bassine qui remplit de colère les écologistes, ou encore masculinisme, présenté comme le contraire du féminisme, mais on n'est pas obligé de choisir son camp. Il y a aussi le platisme, pour ceux qui ne tournent pas tout à fait rond, et les trottinettistes, qu'on espère plus équilibrés. On peut désormais désanonymiser ou déconjugaliser, mais ça c'est seulement en matière fiscale. En revanche, Larousse a dit « niette » au pronom « yel », censé désigner le genre neutre, dont les auteurs estiment qu'il n'a qu'un usage militant. Parmi les personnalités entrantes, l'iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, est toujours en prison, je le rappelle. Pour cette raison, et sans doute pour d'autres, le Petit Larousse illustré ne sera certainement pas distribué à Téhéran.
Hervé Gattegnaud, la revue de presse, qu'on retrouve demain dès 8h32-33. Merci Hervé.
À demain.
Dans un instant, Luc Ferry, c'est notre esprit libre du lundi.